L'anarchie, sa philosophie, son idéal. Pierre Kropotkin. On dit souvent que les anarchistes vivent dans un monde de rêves d'avenir et ne voient pas les choses du présent. Nous ne les voyons que trop, peut-être, sous leur vraie couleur, et c'est ce qui nous fait porter la hache dans cette forêt de préjugés autoritaires qui nous obsède. Loin de vivre dans un monde de visions et d'imaginer les hommes meilleurs qu'ils ne sont, nous les voyons tels qu'ils sont. Et c'est pourquoi nous affirmons que le meilleur des hommes est rendu essentiellement mauvais par l'exercice de l'autorité, et que la théorie de la pondération des pouvoirs et du contrôle des autorités est une formule hypocrite, fabriquée par les détenteurs du pouvoir pour faire croire au peuple souverain qu'il méprise que c'est lui qui gouverne. C'est parce que nous connaissons les hommes que nous disons à ceux qui s'imaginent que sans eux les hommes s'entre-dévoreraient. Vous raisonnez comme ce roi qui, renvoyé à la frontière, s'écriait « Que vont devenir mes pauvres sujets sans moi ?» Ah, si les hommes étaient ces êtres supérieurs dont les utopistes de l'autorité aiment à nous parler, si nous pouvions fermer les yeux sur la réalité et vivre comme eux dans un monde d'illusions sur la supériorité de ceux qui se croient appelés au pouvoir, peut-être ferions-nous comme eux. Nous croirions aux vertus des gouvernants. Avec des maîtres vertueux, quel danger pouvait offrir l'esclavage? Vous souvenez-vous du maître d'esclaves dont on nous a tant parlé il y a 30 ans à peine? N'était-il pas censé prendre des soins paternels de ses esclaves? Lui seul pouvait empêcher ses paresseux, ses nonchalants, ses enfants imprévoyants de mourir de faim. Lui, écraser ses esclaves sous le fardeau du travail ou les mutiler sous les coups? Comment l'aurait-il fait puisque son intérêt direct était de les bien nourrir, de les bien soigner, et de les traiter comme ses enfants. Et puis, la loi ne veillait-elle pas à punir les moindres écarts d'un maître qui aurait oublié ses devoirs? Ah, que de fois on nous l'a dit, mais la réalité était telle que, revenu de son voyage au Brésil, Charles Darwin fut hanté toute sa vie par les cris d'angoisse d'esclaves mutilés, par les sanglots des femmes gémissant, leurs doigts serrés dans les poussettes. Si les messieurs placés au pouvoir étaient réellement ces êtres intelligents et dévoués à la cause publique, dont les panégyristes de l'autorité aiment à nous entretenir, quelle joie utopiste, gouvernementale et patronale n'arriverait-on pas à construire? Le patron ne serait jamais le tyran de l'ouvrier, il en serait le père. L'usine serait un lieu de délices, et jamais des populations de travailleurs ne seraient vouées au dépérissement physique. L'État n'empoisonnerait pas ses ouvriers par la fabrication des allumettes à phosphore blanc, qu'il est si facile de remplacer par le phosphore rouge. Le juge n'aurait pas la férocité de condamner la femme et les enfants de celui qui l'envoie en prison à souffrir des années de faim et de misère, et à mourir un jour d'anémie. Jamais un procureur ne demanderait la tête d'un accusé pour l'unique plaisir de faire valoir ses talents oratoires. Et nulle part ne se trouverait un geôlier ni un déhiblé pour exécuter les sentences que les juges n'ont pas le courage d'exécuter eux-mêmes. Que dis-je, on n'aurait jamais assez de Plutarque pour raconter les vertus des députés, ayant l'échec en horreur. Biribi deviendrait une pépinière austère de vertus, et les armées permanentes seraient la joie des citoyens, puisque les soldats ne prendraient le fusil que pour parader devant les bonnes d'enfants et pour porter les bouquets de fleurs à la pointe de leurs baïonnettes. Oh, la belle utopie, le beau rêve de Noël que l'on fait, dès qu'on admet que les gouvernants représentent une caste supérieure connaissant peu ou point les faiblesses des simples mortels. Il suffirait alors de les faire contrôler hiérarchiquement les uns par les autres, de leur permettre d'échanger tout au plus une cinquantaine de papiers entre divers administrateurs quand le vent abat un arbre sur une route nationale. Ou au besoin, on les fait apprécier par ces mêmes masses de mortels qui, doués de toutes les faiblesses dans leur rapport mutuel, deviennent la sagesse même quand il s'agit de choisir des maîtres. Toute la science du gouvernement, imaginée par les gouvernants eux-mêmes, est un but de ces utopies. Mais nous connaissons trop les hommes pour en rêver de pareil. Nous n'avons pas de poids et de mesure pour les vertus des gouvernés et celles des gouvernants. Nous savons que nous-mêmes ne sommes pas sans défaut et que les meilleurs d'entre nous seraient vite corrompus par l'exercice du pouvoir. Nous prenons les hommes pour ce qu'ils sont Et c'est pour cela que nous haïssons le gouvernement de l'homme par l'homme et que nous travaillons de toutes nos forces, pas assez peut-être, à y mettre fin. Mais ce n'est pas assez de démolir. Il faut aussi savoir bâtir, et c'est faute d'y avoir pensé que le peuple fut toujours leurré dans toutes ces révolutions. Après avoir démoli, il abandonnait le soin de reconstruire aux bourgeois qui, eux, possédaient une conception plus ou moins nette de ce qu'ils voulaient réaliser et qui reconstruisaient alors l'autorité en leur faveur. C'est pourquoi l'anarchie, lorsqu'elle travaille à démolir l'autorité sous tous ses aspects, lorsqu'elle demande l'abrogation des lois et l'abolition du mécanisme qui sert à les imposer, lorsqu'elle refuse toute organisation hiérarchique et prêche la libre entente, travaille en même temps à maintenir et à élargir le noyau précieux de coutumes de sociabilité sans lesquelles aucune société humaine ou animale ne saurait résister. Seulement, au lieu de demander le maintien de ces coutumes sociales à l'autorité de quelques-uns, elle le demande à l'action continue de tous. Ces institutions et les coutumes communistes s'imposent à la société, non seulement comme une solution des difficultés économiques, mais aussi pour maintenir et développer les coutumes sociables, qui mettent les hommes en contact les uns avec les autres, établissant entre eux des rapports qui fassent de l'intérêt de chacun l'intérêt de tous, et en les unissant, au lieu de les diviser. Quand nous nous demandons, en effet, par quels moyens un certain niveau moral peut être maintenu dans une société humaine ou animale, nous n'en découvrons que trois. La répression des actes antisociaux, l'enseignement moral et la pratique même de l'appui mutuel. Et puisque tous les trois ont été pratiqués, nous pouvons les juger à leurs œuvres. Quant à l'impuissance de la répression, elle est suffisamment démontrée par le désarroi de la société actuelle et par la nécessité même de la révolution que nous désirons ou que nous sentons tous inévitable. Dans le domaine économique, la coercition nous a conduits au bagne industriel. Dans le domaine politique, à l'État, c'est-à-dire à la destruction de tous les liens qui existaient jadis entre citoyens. Les Jacobins de 1793 brisèrent ceux-mêmes qui avaient résisté à l'État monarchique, afin que la nation devienne une masse incohérente de sujets, soumis sous tous les rapports à une autorité centrale. Non seulement le régime de coercition a créé les maux du système économique, politique et social actuel, mais il a fait preuve d'impuissance absolue pour relever le niveau moral des sociétés. Il n'a même pas su le maintenir au niveau qu'elles avaient atteint. Car si une fée bienfaisante pouvait révéler aux yeux de tous les crimes qui se commettent chaque jour, à chaque instant, dans une société civilisée, sous le couvert de l'inconnu, des hautes protections et de la loi elle-même, la société en frémirait. Les plus grands crimes politiques, comme le 2 décembre ou la Semaine sanglante, ne sont jamais atteints, et comme disait le poète, on frappe les petits mécréants pour la satisfaction des grands. Plus que cela, alors même que l'autorité se charge de moraliser la société pour le châtiment des criminels, elle ne fait qu'accumuler de nouveaux crimes. Pratiquée depuis des siècles, la répression a si mal réussi que nous sommes dans une impasse dont nous ne pourrons sortir qu'en portant la torche et la hache dans les institutions de notre passé autoritaire.